Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Le désert des déserts » et la traduction française de Arabian Sands, le grand récit de voyage de Wilfred Thesiger consacré à ses expéditions dans le sud de la péninsule arabique après la Seconde Guerre mondiale. Entre 1945 et 1950, sous couvert de missions liées à l'étude des criquets, cet explorateur britannique parcourt notamment le Rub al-Khali, immense région alors très peu connue des Européens. Le livre relève à la fois du carnet de route, du témoignage ethnographique et de la réflexion personnelle. Thesiger y décrit les contraintes concrètes de la marche à pied et du déplacement à chameau, la pénurie d'eau, les rivalités tribales, les règles de protection et les formes de sociabilité bédouine. Son propos ne se réduit cependant pas à une aventure individuelle. Il cherche à restituer un monde nomade qu'il estime menacé par les transformations économiques et techniques liées à la découverte du pétrole. Cette perspective fait la force documentaire du livre, tout en appelant une lecture critique de son regard occidental et souvent nostalgique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le Rub al-Khali comme épreuve matérielle et espace de connaissance. Le désert des déserts donne au Rub al-Khali une place qui dépasse le cadre pittoresque du récit de voyage. Thesiger en fait un environnement qui impose ses propres règles à chaque décision. Les itinéraires dépendent des puits, de la qualité de leur eau, des pâturages accessibles aux chameaux et de renseignements parfois incertains. La fatigue, la faim, le froid nocturne et la chaleur diurne ne sont pas de simples péripéties. Ils déterminent les rapports entre les membres du groupe, le rythme des déplacements et les risques acceptables. Cette attention aux conditions concrètes explique pourquoi le livre possède une forte valeur de témoignage. Le désert ne constitue pas un décor vide face auquel un Européen pourrait démontrer son héroïsme. Il est un système de contraintes auquel Thesiger doit se soumettre avec ses compagnons. Les cartes et les repères géographiques prennent ainsi une fonction narrative et pratique, car ils rendent perceptible l'immensité d'un territoire où une erreur peut avoir de graves conséquences. La traversée révèle aussi les limites de la préparation occidentale. Les connaissances locales, l'expérience des pistes et la maîtrise des ressources rares sont plus décisives que la seule volonté de explorer. Le texte montre donc que connaître un désert suppose moins de le conquérir que de reconnaître sa capacité à défaire les certitudes du voyageur. Deuxièmement, une immersion prolongée dans les sociétés bédouines. La singularité du livre tient largement à la durée et à l'intensité de la coexistence de Thesiger avec des groupes bédouins. Ils ne présentent pas leurs pratiques comme un simple inventaire de coutumes. Les repas, les échanges de nouvelles, les déplacements, les querelles et les obligations envers les hôtes apparaissent dans les circonstances qui leur donnent un sens. L'hospitalité occupe une place centrale, non comme une vertu abstraite, mais comme une nécessité sociale dans un milieu où chacun peut dépendre un jour de la protection ou des provisions des autres. Le récit éclaire également la force des solidarités de parenté, des affiliations tribales et des codes de l'honneur. Ces règles peuvent offrir sécurité et entraide, mais elles s'articulent aussi à des rivalités, à des expéditions de représailles et à la mémoire durable des morts. Thesiger insiste sur l'endurance, la dignité et la générosité de ses compagnons, tout en relatant des comportements qui heurtent ses propres attentes. Cette tension évite parfois une vision entièrement harmonieuse du nomadisme. Elle ne supprime pas pour autant les biais de son regard. Le lecteur actuel doit distinguer les observations issues d'une expérience rare de ses généralisations sur les Bédouins. Cette lecture critique permet de mieux apprécier le livre comme document situé sur des sociétés diverses et non comme une description définitive de toute la culture arabe. Troisièmement, le voyage dépend de la diplomatie, de la confiance et des alliances. Dans ce récit, le danger ne vient pas uniquement de la soif ou de la désorientation. La péninsule est traversée par des frontières mouvantes, des conflits entre tribus et une profonde méfiance envers la présence chrétienne dans certaines zones. La progression de Thesiger repose donc sur la négociation permanente. Il lui faut choisir ses accompagnateurs, obtenir des protections, interpréter des informations contradictoires et éviter de se retrouver associé à un groupe engagé dans une querelle. Les compagnons bédouins ne sont pas des auxiliaires interchangeables. Ils rendent le voyage possible par leur connaissance du terrain, des réseaux locaux et des règles de conduite à respecter. Cette dépendance est fondamentale pour comprendre la portée du livre. L'explorateur ne pénètre pas seul dans un espace inconnu. Il est admis, escorté et parfois défendu par des hommes dont il doit gagner la confiance. Les scènes de tension montrent aussi le poids de la réputation. La générosité, le courage, la loyauté envers un invité et la capacité à parler avec prudence peuvent réduire les risques sans jamais les annuler. Thesiger décrit ainsi une aventure collective, même si son nom demeure au centre du récit. Cette dimension corrige le modèle romantique du héros isolé et met en lumière une géographie humaine faite de routes, de protections temporaires et de relations personnelles. Elle explique également pourquoi les changements de compagnons modifient constamment la tonalité et les possibilités de chaque expédition. Quatrièmement, le pétrole et la modernisation vus comme la fin imminente d'un monde. Un des thèmes les plus marquants du désert des déserts est la conscience que le monde observé est sur le point de changer radicalement. Thesiger voyage avant que les revenus pétroliers, les routes, les véhicules et les administrations modernes ne transforment en profondeur la péninsule arabique. Il anticipe que ces évolutions réduiront la mobilité nomade, modifieront les rapports à la subsistance et fragiliseront les équilibres culturels dont il a été le témoin. Cette intuition donne au livre sa tonalité de chronique crépusculaire. Elle explique aussi sa réception comme archive précieuse d'une Arabie antérieure à la prospérité pétrolière. Toutefois, cette critique de la modernisation doit être examinée avec prudence. Thesiger oppose fréquemment la rigueur du désert au confort matériel et valorise les privations comme une source de caractère. Une telle opposition risque de transformer des souffrances réelles, dont la faim, la maladie et l'insécurité, en idéal moral. Les transformations techniques peuvent aussi apporter des ressources, des soins ou des choix nouveaux aux populations concernées. La valeur intellectuelle du livre réside donc moins dans une condamnation définitive du progrès que dans la question qu'il oblige à poser que perd une société lorsqu'elle... Changement rapide remplace ses pratiques, ses formes de solidarité et son rapport au territoire. Cette tension entre sauvegarde de la mémoire et nostalgie constitue une clé de lecture essentielle. En dernier lieu, un témoignage exceptionnel qui exige une lecture critique du regard colonial. Thesiger écrit avec une implication physique rare et une admiration manifeste pour ses compagnons bédouins. Son refus du confort, son apprentissage des usages locaux et la longueur de ses séjours distinguent son livre de nombreux récits de passage. Pourtant, cette proximité ne le place pas hors de son époque. Britannique formé dans un contexte impérial, il décrit des sociétés qu'il considère souvent à travers les catégories du voyageur occidental. Et il peut idéaliser leur austérité en même temps qu'il les juge. Certaines de ses réflexions sur le progrès, les sédentaires ou les qualités supposées des nomades relèvent de généralisations qu'il convient de contextualiser. Le livre gagne à être lu sur deux niveaux. Au premier niveau, il fournit des observations concrètes et souvent irremplaçables sur des itinéraires, des pratiques de voyage, des relations tribales et une période de transition historique. Au second, il révèle la façon dont un explorateur européen construit son désir de désert, son rejet de la société industrielle et son attachement à une forme de vie qu'il ne subit jamais tout à fait de la même manière que ses hôtes. Cette double lecture ne diminue pas son intérêt. Elle permet au contraire de comprendre pourquoi le récit est à la fois si vivant et si problématique. Sa force vient de la friction entre expériences vécues, volonté documentaire et vision personnelle. Le lecteur peut ainsi apprécier sa qualité descriptive sans reprendre automatiquement ses hiérarchies culturelles ou sa nostalgie. En conclusion, Le désert des déserts conviendra particulièrement aux lecteurs de récits de voyage exigeants, aux personnes intéressées par la péninsule arabique et à celles qui cherchent un document sur les sociétés douines avant les profondes transformations pétrolières du XXe siècle. Il intéressera également les lecteurs de géographie humaine et les étudiants qui souhaitent réfléchir aux limites du témoignage ethnographique produit par un observateur étranger. Son bénéfice principal est de rendre sensibles les conditions matérielles du nomadisme dépendance au puits, importance des chameaux, règles de l'hospitalité, poids des alliances et présence constante du risque. Cette précision concrète donne au livre une densité que des synthèses historiques plus générales ne peuvent pas toujours offrir. Par rapport à des récits de voyage plus contemplatifs, Thesiger se distingue par une immersion longue, rude et engagée dans les déplacements de ses compagnons. Par rapport à une enquête anthropologique académique, il apporte la continuité d'une expérience vécue avec ses inconforts, ses conflits et ses attachements. Cette qualité a une contrepartie, sa vision du désert et de la modernité est subjective, parfois paternaliste et fortement nostalgique. Le livre mérite donc une lecture attentive plutôt qu'une adhésion immédiate. Lu avec ce recul, il reste un texte majeur non parce qu'il livrerait une vérité complète sur les Bédouins, mais parce qu'il conserve la trace détaillée d'une rencontre, d'une époque et d'un monde en pleine mutation. Si vous souhaitez soutenir Wilfred Thesiger, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt !